Isaac Franco, bonjour.
Bonjour Jonathan.
J'ai une question très simple au regard des dernières informations qui nous proviennent en provenance de Washington. C'est à quoi joue Donald Trump? Négociation, opération militaire, bref, où va-t-on?
Ah ben il joue le chaud et le froid, c'est son habitude. Il a des déclarations extrêmement menaçantes, martiales. Et puis rien, vous rappelez-vous, il avait déjà menacé le Hamas d'ouvrir le sol sous ses pieds s'il ne désarmait pas, il ne l'a pas fait. Pendant son premier mandat, pendant 3 ans, eh bien, il a cherché à négocier avec l'Iran, il n'y est pas arrivé. Et puis, à la toute fin de son premier mandat, le 3 janvier 2020, il a éliminé Qassem Soleimani. Et puis, dans ce deuxième mandat, il a cherché à négocier aussi pendant plusieurs mois. Et puis, au mois de juin, il est intervenu en conclusion de l'intervention israélienne dans la guerre des 12 jours. Dans l'opération Midnight Hammer. Donc, c'est difficile de savoir quelles sont les intentions des Américains. S'ils peuvent se passer d'une intervention, ils s'en passeront volontiers. Pour l'instant, ils examinent quels sont les différents scénarios possibles. Un des scénarios, c'est effectivement cette proposition de Araghchi de relancer des négociations sur le nucléaire et probablement sur le programme balistique aussi. Mais c'est certain que si négociation il devait y avoir, l'Iran n'y arriverait pas en position de force et les Américains seraient, eux, en position de force après ce qui s'est passé en juin de l'année dernière. Et puis, la révolte, le soulèvement qui gagne en importance chaque jour qui passe et auquel s'est joint le bazar. Donc, si négociation il doit y avoir, ce serait pas pour gagner du temps, ce serait pour les Américains pour imposer des conditions auxquelles le régime devrait souscrire s'il veut survivre.
Justement, Isaac, pourquoi les Iraniens ont relancé l'idée de reprendre les discussions sur leur programme nucléaire maintenant, alors que depuis le mois de juin dernier, il n'y a aucune négociation en cours concernant ce dossier? Il se dit aussi, Isaac, qu'au sein de l'administration Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff défendraient une ligne bien plus pacifique que celle tenue par le président Trump et son secrétaire d'État à la Défense, Pete Hegseth. Est-ce que l'Iran ne cherche pas à jouer aussi sur les divergences de vues au sein de l'administration américaine pour sauver sa peau?
Oui, sans doute, c'est de bonne guerre. Pour l'Iran, c'est normal aujourd'hui de proposer de négocier. Il sait qu'il a le dos contre le mur. La seule manière pour lui d'apaiser la colère de la population iranienne, c'est une levée, en tout cas partielle, des sanctions qui permettrait d'améliorer le quotidien de cette population. Et pour ce faire, il joue entre l'opposition qui existe dans le pouvoir américain, entre ce qu'on appelle les isolationnistes d'une part et les interventionnistes de l'autre. Ce que je note, c'est que depuis plusieurs mois, il semble que les interventionnistes aient repris la main. On l'a vu au Venezuela, on l'a vu également au mois de juin dernier, l'intervention américaine en Iran. Donc, il semble que Rubio dirige un peu plus les affaires étrangères que jusqu'il y a quelques mois. Apparemment, aujourd'hui, dans le pouvoir américain, les interventionnistes semblent avoir la main par rapport aux isolationnistes. Donc, je suis pas absolument sûr qu'ils ont intérêt à jouer là-dessus parce que, de toutes les façons, le président américain est très en colère. Il voit ce qui se passe en Iran et il attend probablement le meilleur moyen, le meilleur moment pour intervenir si intervention il doit y avoir. Parce que, pour l'instant, les Américains attendent de savoir si ce soulèvement a vraiment une chance d'aboutir. Trump n'interviendra en Iran qu'à partir du moment où le coût de son intervention sera minime et le capital politique qu'il peut en tirer sera maximum. Et donc, je pense
Alors,
qu'on... Pardon, allez-y.
oui. Allez-y,
Non,
finissez, Isaac.
je pense que demain sera un jour important parce que l'armée américaine va proposer au président américain plusieurs scénarios, plusieurs solutions d'intervention éventuelles. Je pense que les Américains se disent que le régime n'est pas encore sur le point de tomber. Il y a deux conditions qui sont remplies pour fragiliser le régime. C'est la pression populaire, elle est de plus en plus importante au mesure que les jours passent. C'est la dégradation de la situation économique. Les Iraniens n'en peuvent plus, ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à boire, ils n'ont rien pour se chauffer, pas possibilité de téléphoner, ni de communiquer, ni de voyager. Donc ces deux conditions sont réunies. Mais je ne pense pas que, à l'heure où nous nous parlons, et avec les informations dont nous disposons, qui sont nécessairement fragmentaires compte tenu du blackout des moyens de communication, je ne suis pas sûr que l'appareil répressif iranien soit fortement dégradé ou fortement affaibli. Je ne vois pas de défection pour l'instant au sein des corps des gardiens de la révolution ou des Basiji d'une part, et même de l'armée. Donc pour l'instant, la loyauté...
Isaac,
oui, allez-y.
Vous pensez que si intervention américaine il y a, ce serait faire peser un danger sécuritaire majeur pour l'avenir de la région, voire l'avenir de la planète. Parce que si intervention américaine il y a en Iran, et au regard de la force, notamment des gardiens de la révolution, cela pourrait faire courir un risque sécuritaire majeur pour le Moyen-Orient.
Vous avez raison.
Supplémentaire.
C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que l'appareil répressif ne me paraît pas suffisamment affaibli pour une intervention maintenant. Il n'y a pas assez de défection. Il n'y a pas de défection visible, en tout cas, avec les informations dont nous disposons, au sein des Basiji et des corps des gardiens de la révolution, pour laisser penser que le régime, l'appareil sécuritaire est affaibli. Et ça me paraît être une condition nécessaire, indispensable même, pour considérer que le régime est en train de vivre ses dernières heures. Et ensuite, dernière condition qui ne me paraît pas encore réunie, même si on parle beaucoup de la figure de Reza Pahlavi, je ne suis pas sûr que ce soit une figure suffisamment rassembleuse, suffisamment fédératrice pour que cette figure, que sa voix, que son verbe résonne de manière égale dans toutes les couches de la population qui sont très très variées, qui se soulèvent pour des raisons très très différentes, qui ont des agendas différents. Est-ce que cette figure de Pahlavi est suffisamment rassembleuse, suffisamment fédératrice? Je ne le sais pas. Et je pense que les Américains, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles Trump n'a pas encore reçu Pahlavi à la Maison-Blanche, pour ne pas la douber, il attend de voir l'évolution de la situation avant d'envisager sérieusement une intervention sous quelque forme que ce soit. Ça ne doit pas être nécessairement une intervention kinétique, c'est-à-dire une intervention militaire. Ça peut être du cyber, ça peut être avec des agents qui sont certainement déjà sur place, le Mossad et la CIA y sont déjà. Donc, je crois qu'il évalue ses cartes, il évalue ses possibilités, et que la situation n'est pas encore à un point de rupture ou à un point d'ébullition tel qu'il suffirait d'une intervention sous quelque forme que ce soit américaine pour donner un coup de pouce, pour donner un coup d'épaule définitif pour faire tomber le régime. On n'en est pas encore là.
Alors justement, Isaac, avant peut-être de réfléchir à une éventuelle riposte militaire, peut-être que les États-Unis devraient réfléchir à mettre en place une alternative à la chute du régime iranien et créer les conditions d'une opposition en tous les cas en prête à diriger le pays.
Les Américains n'emmèneront personne dans ces fourgons pour mettre à la place qui sera à la place de Khamenei ou du régime des corps des gardiens de la révolution. C'est une affaire iranienne, intérieure iranienne, c'est à elle à féconder cette prochaine direction. Est-ce que ce sera Pahlavi? Dans toutes les manifestations qui se passent, son nom est scandé en Iran, dans toutes les villes, à l'étranger, à Paris, à Londres, à Berlin, à Bruxelles, hier, où j'étais à une manifestation devant l'ambassade d'Iran, c'est le nom qui a été scandé tout le temps. Mais est-ce que c'est le scénario le plus vraisemblable? Je l'ignore. C'est la faiblesse de ce soulèvement, comme des soulèvements précédents, c'est l'absence d'une figure fédératrice. D'une certaine manière, si je puis me permettre, conjoncturellement, c'est-à-dire à brève échéance, cette absence de figure visible, déterminante, est une bonne chose pour le soulèvement parce que l'appareil répressif ne peut pas décapiter cette personne, au sens propre comme au sens figuré, puisqu'elle n'existe pas. C'est un soulèvement horizontal, avec une absence de tête dirigeante qui soit suffisamment visible par le régime pour que celui-ci l'élimine. Donc ça peut servir le soulèvement, l'absence de figure. Mais structurellement, c'est-à-dire à moyen terme ou à long terme, cette absence va peser et effectivement risque de plonger l'Iran dans un climat ou dans un avenir à brève échéance, en tout cas si le régime tombe, de grande incertitude. Parce que effectivement, il faudra trouver une solution. Qu'est-ce que ça va être? Le rétablissement de la monarchie? Il faut savoir que la monarchie n'a pas laissé que des bons souvenirs dans l'inconscient collectif iranien. Hein. La SAVAK, la police politique du Shah jusqu'en 1979, a laissé des souvenirs douloureux dans la population iranienne. Et voir les Américains présenter une solution qui serait une solution de l'étranger, je vois pas, ça ne marche jamais. Ça doit être une solution irano-iranienne. C'est à la population à se déterminer. Mais
Isaac,
oui, pardon.
Le temps nous est malheureusement compté. J'ai une dernière question très très rapidement.
Oui.
Sur l'annonce de la présidente du Parlement européen Roberta Metsola d'interdire l'accès des locaux du Parlement au personnel diplomatique de la République islamique, et une décision qui a été prise aujourd'hui, l'Europe commence petit à petit à se réveiller sur ce dossier iranien. Pourquoi avoir mis autant de temps à réagir à ce bouleversement historique qui est en train de se produire sous nos yeux?
Tout le monde s'est accommodé de ce régime mortifère. Tout le monde s'est accommodé pendant des décennies. On a courtisé les Iraniens. On les a courtisés, on s'est parfaitement accommodé en sachant parfaitement ce que faisait ce régime, qu'il était le principal agent de déstabilisation de la région. Et pourtant, on s'en est accommodé. Il a fallu l'avènement au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump pour dire ça suffit. On ne peut pas continuer avec un régime qui menace la paix de la région, qui finance à grands fonds des proxys voués à la disparition d'un État membre de la communauté internationale, qui est un allié de la Chine et qui est un allié de la Russie. Il faut débarrasser la planète de ce régime mortifère. Voilà, mais jusqu'à présent, effectivement, tout le monde a fait preuve d'une très très grande lâcheté.
Isaac Franco, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Merci pour votre invitation, Jonathan. Au revoir.